Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le Devoir et la Presse. Au programme, comment transmettre le goût de la lecture à son ado. Fred Pellerin, conteur de son temps. Et l'humour d'ici et les préjugés qui lui collent aux fesses. Bonne écoute.
Comment transmettre le goût de la lecture à son ado? Un texte de Marie-Hélène Poitras, paru dans l'édition des 18 et 19 mars 2023 du journal Le Devoir. Un collègue me raconte à la fois où elle a amené son fils voir Jean Hydro. Elle avait estimé que la modernité du propos, les préoccupations mises en avant dans la pièce et la performance extraordinaire de Christine Beaulieu éveilleraient son intérêt. Mais à l'entracte, l'ado a déclaré s'ennuyer ferme, puis glissé ses écouteurs dans ses oreilles pour mieux endurer la suite. Je renchéris en détaillant les contorsions pas possibles de ma fille sur sa chaise la fois où, comme elle aimait chanter, j'avais cru pertinent de nous prendre deux billets pour un spectacle de Claude Dubois. Rendue à la cinquième chanson, elle était agenouillée par terre, dos à la scène, la tête sur la banquette, affichant une grimace figée entre douleur, exaspération et le cri d'Edvard Munch. Il n'y a pas eu d'entracte et le spectacle qui durait trois heures s'est vu bonifié de plusieurs généreux rappels. Entre revivre ce moment et se faire enlever un ongle incarné, je crois qu'elle choisit sans hésiter le fauteuil du podiatre à celui de la place des arts. Comment transmettre à nos jeunes l'envie de se rendre au théâtre, au cinéma, au musée ou, pire encore, à la bibliothèque? Ce n'est pas parce qu'il y a des livres à la maison et qu'elle me voit le nez dedans que mon intérêt pour la littérature s'est transmis à la chair de ma chair. Vous dire le plaisir que me procure le fait d'apercevoir, dans le bordel perpétuel de sa chambre d'adolescente de 15 ans, où l'on jurerait qu'un ouragan passe chaque jour, « Coucoum » de Michel Jean, « Là où je me terre » de Caroline Dawson, des romans graphiques comme « Tamara Drew » de Posy Simmons et « Maus » d'Art Spiegelman. Merci à sa prof de français. Parmi ses affaires d'école, restant de lunch, bas sale, gobelet vide de thé aux bulles. Pendant la relâche, j'ai eu l'idée d'amener ma fille au théâtre. Après avoir étudié attentivement la programmation de tous les établissements de la ville, hésité entre « Je t'écris au milieu d'un bel orage », inspiré des correspondances amoureuses d'Albert Camus et de l'actrice Maria Cáceres, et le documentaire scénique Pas perdu d'Anaïs Barbeau-Lavalette et Émile Proux-Cloutier, j'ai arrêté mon choix sur la pièce Hedwig et le pouce en furie portée par un Benoît McGuinness au sommet de sa forme. Ma fille est ressortie de là avec des points d'interrogation dans les yeux, se demandant comment il se faisait qu'une pièce aussi audacieuse, voire punk, attire une majorité de personnes âgées. Alors, j'ai dû lui expliquer que c'était pas mal elles, ces personnes aux têtes blanches qui font rouler l'économie culturelle, achètent les romans, les albums, prennent des abonnements annuels dans les théâtres, etc. J'ai aussi traîné Charlotte au cinéma pour Le Plongeur. Elle est retournée voir le film une deuxième fois avec ses amis, puis une troisième avec moi, après avoir appris qu'une représentation spéciale aurait lieu au cinéma Beaubien, lors de laquelle l'équipe du film serait sur place. Pendant que défilait le générique, le réalisateur Francis Leclerc, l'auteur Stéphane Larue, plusieurs comédiens dont Henri Picard, sont montés sur la scène. Les questions du public étaient pertinentes et les réponses des artisans éclairantes. Quelque chose de magique s'est passé durant cette demi-heure lors de laquelle nous avons franchi ensemble le quatrième mur. À notre sortie du Beaubien, surprise, le jeune acteur Henri Picard attendait seul dehors, comme un quidam. Charlotte a bravé sa gêne et le flot de spectateurs pour aller lui dire à quel point le film lui avait plu. on a pris une photo et, au retour, écouté dans la voiture des chansons tirées de la trame musicale du film « Smack My Bitch Up » de Prodigy, « Like Spinning Plates » de Radiohead, « Miss Ecstasy » de Dumas, « La nuit dérobée des chiens ». Alors, je boucle cette chronique. Elle me fait signer une feuille pour une sortie scolaire. Les élèves iront au théâtre Jean Duceppe découvrir Manika Nitish, adapté du roman de l'essentiel Naomi Fontaine. L'histoire d'une enseignante de français en poste dans une réserve inoue qui raconte la vie de ses élèves et les initie au théâtre. J'ai hâte de connaître les impressions de Charlotte sur la foule, la pièce ou un comédien cute. Je remercie tous ces profs qui se fendent en quatre pour initier nos adolescents à des œuvres qui les enthousiasmeront, ou pas. C'était « Comment transmettre le goût de la culture à son ado », un texte de Marie-Hélène Poitras, paru dans l'édition des 18 et 19 mars 2023 du journal Le Devoir.
Fred Pellerin, conteur de son temps, un texte de Yannick Marcoux, paru le 25 février 2023 dans Le Devoir. Le conteur de Saint-Élide Caxton reprend la scène avec La descente aux affaires, spectacle qui fait une belle place à son personnage de Toussaint Brodeur. Fred Pellerin remplit les salles des plus grands théâtres québécois avec ses histoires et sa musique, seul sur ces immenses scènes, sans rien d'autre que sa guitare et un pied de micro. Avant, il avait aussi une chaise, mais depuis la pandémie, elle a pris sa retraite de la tournée. Elle prenait de la place dans le char, nous lance-t-il, le regard rieur. Le devoir l'a rencontrée alors qu'il s'apprêtait à relancer sa tournée québécoise de « La descente aux affaires », spectacle de conte dans lequel il nous invite sous l'épée de Damoclès du temps. Voilà 20 ans qu'il attise les braises de ses contes. Bien au chaud, dans une pizzeria de la petite patrie, il n'en revient pas. Tantôt, on est passé devant la Maison de la culture où mon agente m'a vu en spectacle pour la première fois. En 2001, ou quelque chose comme ça. J'étais à l'université, en même temps, je faisais ça pour le fun. Je ne pensais jamais que ça me mènerait là où je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, la voix pleine et le regard vif, il est comblé de félicité. D'avoir échappé à ses parcours artistiques éphémères, d'avoir pu vivre des projets enivrants et d'être encore là, nouveau spectacle en bouche, avec un public qui répond présent. À un moment donné, je me dis, ils vont s'écœurer de Saint-Élide Caxton. Au contraire, on se réjouit de le retrouver, de retour au pays, après une virée en France, avec sa nouvelle fournée de contes, dans laquelle le désormais bien connu Toussaint Brodeur, tenancier du magasin général de Saint-Élie, est le protagoniste de La descente aux affaires. Célébrer le Toussaint. Fred Pellerin repousse toute relation ésotérique avec ses personnages, mais il admet que ceux-ci lui donnent parfois l'impression de s'imposer à lui. Je me rends compte de ça à chaque fois. C'est comme si le personnage principal d'un nouveau spectacle avait commencé à m'intéresser au spectacle précédent. Signe que les charmes de Toussaint opéraient sur le conteur, celui-ci était au cœur de son premier album jeunesse, La course de petits bateaux, paru en novembre 2021. Fred Pellerin souligne aussi l'apport d'Émile Proucloutier, interprète de Toussaint dans L'arracheuse de temps, long métrage aussi sorti en novembre 2021, qui a propulsé le personnage en lui injectant encore plus de relief et de caractère. Mais si Toussaint est au cœur de La descente aux affaires, c'est aussi le fruit d'une décision concertée. J'ai une obsession grandissante pour le temps. Et je trouvais qu'avec Toussaint, il y avait un beau choc à créer entre le temps et son rapport à l'argent. Comme d'habitude, Fred Pellerin s'inspire des figures de Saint-Élie de Caxton pour alimenter ses contes. Mais sous les traits du commerçant se glisse aussi le souvenir de son père. Habile compteur, C-O-M-P-T-E-U-R, et infatigable compteur, C-O-N-T-E-U-R, son père prenait plaisir à manier les chiffres pour les subjuguer à sa création. Mon père n'était pas assoiffé d'argent, mais il ressemble à Toussaint par sa façon de jouer avec le système. Son jeu, c'était de démancher les chiffres. Dans un monde capitaliste où la colonne des chiffres pèse lourd dans la balance de nos préoccupations, Fred Pellerin prend bien soin de mettre de la chair et un cœur à son Toussaint, nous invitant notamment autour du four à pain où Brodeur a rencontré l'amour. Il assure d'ailleurs qu'il est d'abord un joueur de tour qui s'amuse à prendre les chiffres en otage. Toussaint n'est pas méchant. C'est un ratoureux. Il aime l'argent, mais il aime surtout le jeu que lui permet l'argent. On pense parfois qu'il est coincé, mais Toussaint s'en sort tout le temps, sauf devant l'éternité. Un processus créatif fil de feriste. À baigner dans l'univers de ses contes, célébrant ses tournures de langage, ses épatants revirements narratifs ou ses envolées nourries d'exagération qui font gonfler notre rire jusqu'à nous prendre les côtes, on croirait que Fred Pellerin travaille ses textes au quart de tour. Il n'en est rien. « Moi, je travaille en improvisation, reconnaît-il, soulevant la feuille posée devant nous, enchaînant « Mon spectacle tient sur ta feuille, là, pas plus volumineux que ton plan d'entrevue. » Le conteur est-il en train d'exagérer? Il assure que non. La première fois, faut que je fasse 1h15. Je veux que les gens s'amusent. Je rentre sur scène avec une pile d'assiettes sur la tête. J'avance tranquillement. Mais après une trentaine de représentations, je ne suis plus en train de chercher les poutres. J'ai trouvé un équilibre et je sais où je peux sauter et où il vaut mieux ne pas aller. À l'exploration des débuts, parsemée de l'ivresse des découvertes, succède alors un autre plaisir, plus libre. Quand je connais les forces du show, je peux m'amuser à ouvrir les petites portes, les fioritures de langue, les délires ou me laisser aller. Je m'amuse avec ça et le show s'étire. Et à un moment donné, il faut que je fasse des coupures. Ça fait ça chaque fois. Je suis parti à 1h15, là, je suis à 1h40. Gardien du feu. Tandis que Fred Pellerin se donne la liberté d'ajouter ou de retrancher du temps à ses spectacles, il prend de plus en plus conscience que cette liberté est circonscrite. Le temps fuit. Et s'il connaît la mort suffisamment pour l'avoir mise en scène, il sait qu'on ne peut la contrôler au point d'en tirer les ficelles. Depuis quelques années, il admet avoir recentré ses énergies et balisé ses priorités. Le plaisir et la folie de la création m'ont pris longtemps. Il y a eu une époque où je faisais 125 shows par année. Mais là, je fais plus ça. J'en fais 75. Ça m'a pris du temps d'arriver à cet équilibre-là. Il cite en exemple le temps des sucres qu'il avait coutume de faire avec son père. quand il est mort en 2007, je m'étais dit que je sauterais pas une saison. Mais ma productrice m'a appelé pour un show à Paris. 4 jours. Bon, j'ai dit oui. Mais les sucres, si tu sautes 4 jours dans le mois que ça dure, ça marche pas. L'année d'après, ça a été un documentaire sur Gilles Vigneault, Le goût d'un pays. Puis finalement, ça a pris 11 ans. Mais là, ça fait 5 ans, et maintenant, le mois des sucres, c'est sacré. Il en parle d'ailleurs avec passion, les mots sucrés et généreux comme un bon sirop, admettant que le rythme des sucres le rappelle à une humilité qui fait du bien. Tu te mets à la merci de la chose, tu te poses avec elle. C'est méditatif. Loin de vivre au ralenti, au contraire animé par une urgence d'habiter l'existence, il fait fi du temps et s'inscrit dans un quotidien de feu furieux où il apprend à vivre dans une forêt qu'il habite depuis quelques années. Pour moi qui suis plus gentleman que bûcheron, c'est vraiment intéressant de côtoyer la nature de cette façon-là. J'ai un projet de truffière, de cabane à sucre, je bûche du bois, j'ai mes enfants, je rêve d'un voyage. Sur scène, comme dans le canevas ouvert de son existence, il s'amuse à ouvrir des portes, s'emballant de ce qu'elle dissimule. Peut-être lui faudra-t-il couper bientôt pour arrimer ses désirs au calendrier. Mais en attendant, la vie est un sacré beau spectacle. La descente aux affaires de Fred Pellerin au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts du 1er au 5 mars et en tournée au Québec dès le 25 avril. C'était Fred Pellerin, conteur de son temps, un texte de Yannick Marcoux paru le 25 février 2023 dans Le Devoir.
L'humour d'ici et les préjugés qui lui collent aux fesses. Un texte de Dominique Tardif, paru le 18 mars 2023 dans la presse. Blagues de pipi, caca et de pénis. Vulgaire, grossier, indigne de ses pères fondateurs. Le refrain est usé. L'humour québécois actuel ne saurait générer des rires qu'en s'en remettant au plus bas dénominateur commun. Pourquoi cette idée a à ce point la vie dure? Que serait un début d'année sans une controverse que personne n'aurait su prédire? Le 16 janvier 2023, la chroniqueuse du Journal de Montréal, Denise Bombardier, s'élevait, avec son habituel sens de la nuance, contre ces humoristes spécialistes d'une langue teintée de matière fécale, d'expressions sexuelles pornographiques et de gestes dont la violence symbolique devrait rester enfermée dans les égouts. Une inoubliable scène de flatulence tirée de l'émission de Prime LOL, « Qui rira le dernier ?» avait alors fait sortir la polémiste de ses gonds, une irritation faisant écho aux nombreux courriels que reçoit votre journaliste de la part de nostalgiques d'Yvon Deschamps et des cyniques chaque fois qu'il a le malheur de signer un article au sujet d'un humoriste. Mais une blague invoquant les sales fonctions propres au bas du corps est-elle forcément une blague facile? Se servir de la vulgarité comme d'un punch, ça c'est facile. Mais une bonne joke de graines, c'est aussi dur à écrire qu'une bonne joke de politique, tranche l'humoriste Simon Delisle en nomination au Gala des Oliviers 2023 dans la catégorie « Auteur de l'année », spectacle pour son travail auprès de Guillaume Pinault. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui qu'avant, des jokes sexou et scato? Oui. Est-ce qu'elles sont toujours faciles? Non. Pense pour sa part l'humoriste et script-éditrice de la cérémonie du Gala des Oliviers 2023, Justine Philly, nommé dans la catégorie du numéro d'humour de l'année pour son apport au monologue « La fourche » de Corinne Côté. Elle a aussi collaboré avec Christine Morancy, citée dans la prestigieuse catégorie de l'Olivier de l'année, à l'écriture de son spectacle « Grâce », qui relate sans euphémisme plusieurs de ses expériences charnelles. Parmi les artistes actuellement en tournée au Québec qui s'abreuvent à cette inépuisable source, nommons également Jo Cormier qui consacre un jouissif passage d'animal à l'échelle de Bristol. Vous googlerez Sam Breton, cité deux fois dimanche, dont le spectacle au Pic Piapel se conclut par une anecdote de défécation dans un lieu n'ayant pas été conçu à ses fins. Ève Côté, cité dans la catégorie capsule ou sketch radio-humoristique de l'année, qui s'en donne à cœur joie dans le Grivois, et Mariana Mazza, qui a érigé son vagin au statut de muse. Ça arrive des blagues scato-sexuelles gratuites, mais il y en a beaucoup qui portent un propos, dit Justine Philly. Simon Delisle soumet un exemple tiré de son excellent spectacle invincible dans lequel il raconte avoir un jour vu au gym une armoire à glace s'échiner à pousser de la fonte avec une intensité l'ayant empêché de garder le plein contrôle sur ses sphincters. Ce qui me fait rire là-dedans, c'est un peu le gars qui se chie dessus. Oui, mais c'est surtout l'orgueil masculin. C'est ça qui est drôle, explique-t-il. Plus le référent d'une joke est clair, plus l'image rentre vite dans le cerveau du public, et quand on parle de pète ou de sexe, tout le monde a le référent. C'est l'autobahn des jokes. L'imperfection subversive. Le professeur au département d'études littéraires de l'UQAM, Antonio Dominguez Leiva, le rappelle. L'intérêt de notre espèce pour ce type d'humour ne date pas d'hier. Dès l'Antiquité gréco-romaine, note-t-il, on trouve des représentations scatologiques. Et c'est sans compter le plus grand dramaturge anglais chez qui se cachait un adepte de jeux de mots épicés. Un homme peut briser une parole avec vous. Monsieur, une parole n'est que du vent, et il peut vous la briser en face. Pourvu qu'il ne la brise pas par derrière, lance Dromio d'Éphèse dans la « Comédie des erreurs », écrite à la fin du XVIe siècle, un exemple parmi tant d'autres de ce genre de répliques, nombreuses dans le théâtre d'un certain Shakespeare. Selon le grand théoricien du carnavalesque Mikhaïl Bakhtin, la vision du monde de la culture populaire est reliée à une inversion de la hiérarchie du corps instaurée notamment par l'Église et par l'affirmation du bas corporel en opposition à ce qui était considéré comme noble et spirituel par la culture aristocratique et bourgeoise et qui était située dans le haut du corps, rappelle Antonio Dominguez Leiva. Dans une société où l'emprise de ces valeurs n'est plus aussi serrée, l'humour fécal aurait néanmoins encore une teneur subversive, mais pour d'autres raisons. Compte tenu du culte du corps performant et désirable qui est aujourd'hui très dominant, tout ce qui est scato redevient un peu tabou, avance le professeur. Plus on veut des corps parfaits, plus l'expression de ce qui est considéré comme pas noble redevient la source de malaise et l'humour sert entre autres à dénouer ces malaises, affirme Antonio Dominguez Leiva, professeur au département d'études littéraires de l'UQAM. Vous écoutez « L'humour d'ici et les préjugés qui lui collent aux fesses », un texte de Dominique Tardif, paru le 18 mars 2023 dans la presse. Fini la bienséance. Pour Justine Philly, les femmes qui osent puiser leur sujet dans la salle de bain ou la chambre à coucher seraient victimes d'un indécrottable deux poids, deux mesures. On ne donne pas le droit aux femmes, et encore moins à une femme qui a le physique de Christine Morancy, d'être aussi crue que leurs collègues masculins, et c'est en ce sens-là que sa présence sur scène a quelque chose de politique. les blagues sexuelles ont quelque chose de libérateur et de féministe pour les femmes parce que l'on continue de s'attendre de leur part à une sorte de bienséance. L'importance des soirées dans les bars a sans doute aussi contribué à délier les langues chez les humoristes qui sont aujourd'hui une majorité à y étreiner leurs numéros, avance Simon Delisle. Dans un contexte où la télé joue un rôle moins déterminant qu'avant dans l'émergence d'une carrière comique, nul besoin de polisser son langage afin de plaire aux diffuseurs. Le bon vieux temps. L'humour québécois, c'était donc bien mieux avant? Les gens qui disent ça ne consomment visiblement pas beaucoup d'humour, répond Justine Philly, en célébrant une offre plus plurielle que jamais. La nostalgie qu'on a pour le passé de l'humour concerne quelque chose de très précis. Comment en effet ne pas souligner qu'à l'époque où Yvon Deschamps triomphait à la Place des Arts, les Roméo Pérusse, Claude Blanchard et Tigus et Timous pratiquaient un humour non seulement égrillard, mais parfois lesté de graves préjugés envers les minorités? Comment aussi ne pas ajouter qu'une flatulence, par la surprise qu'elle provoque, a quelque chose de profondément incongru et donc de profondément drôle? Des fois, une joke de pète, c'est juste une joke de pète, conclut Justine Philly, et c'est très correct comme ça. C'était « L'humour d'ici et les préjugés qui lui collent aux fesses », un texte de Dominique Tardif, paru le 18 mars 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Hélène Lamarche à la lecture, Évelyne Séverin et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zortman à la présentation et au montage.